Une création Magellan.
Je reçois dans cet épisode Serge Monet, ancien rappeur et avocat pénaliste. Serge Monet, bonjour. T'es un peu l'invité idéal parce que t'illustres deux modalités de la parole. Le rap d'une part, la plaidoirie d'autre part. T'as commencé rappeur dans la mafia tressée et aujourd'hui tu es avocat et tu plaides en jouant toujours avec les sons et tu vas nous donner les clés de la parole.
Avec plaisir en tout cas.
Séquence 1. La figure de style. Anaphore, métaphore, jeu de mots, j'analyse une figure de style souvent utilisée par l'invité pour voir quel effet ça produit dans son discours. On écoute ces extraits et juste après, on décortique ta figure de style fétiche.
Les jeunes avancent trop vite, les vieux stressent, le vice traîne sous forme de schlasse dans les poches de Lévi-Strauss. C'est la joue, on fume et on tousse. En sous-sol, on partout, c'est sale, partout et tout saoule. Les coups de feu partent tout seuls.
Passons cash aux vraies choses. Je tricard trop de gens hier en colère. D'un coup, à voir la tricolore qui regardait en l'air flotter le drapeau tricolore. D'emblée, chacun retrouve sa fierté, même redoublé, il nous semble. Y'a plus de noir blanc bleu, il reste que des bleus. Les étrangères nous kiffent, elles sont terres paranoïques. Les Cariens deviennent paranoïaques et se cachent quelque part à New York.
Là, on est en 99, le deuxième album de Mafia Tressée est le titre Champion. Et comme dans le premier extrait, quelque chose nous frappe, la rime riche, que j'appelle en tant que linguiste paronomase ou rime équivoquée, et que aujourd'hui on dit rime multisyllabique. Ici, tu fais rimer tricolore, tricalore, paranoïaque, quelque part à New York. Dans l'extrait précédent, tu faisais rimer le vice traîne sous forme de schlasse dans les poses de Lévi-Strauss. Explique-nous un petit peu ça.
Depuis toujours, moi, j'ai été fasciné par la rime, le mot et la rime, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau pour mettre en valeur le mot que la rime, parce que ça frappe l'esprit, on s'en souvient et ça peut même impressionner. Or, je crois que si on a envie de faire passer un message par le mot, c'est bien de faire en sorte que les gens soient marqués par ce message, et il n'y a pas mieux que la rime, en effet.
Le début, c'est 97, le premier album. On est dans ce que les amateurs de rap appellent l'âge d'or du rap. C'est après la Clica, après les compilations Hostile et Time Bomb qui voient émerger Arsenic, Lunatic, des groupes dont après vous faites partie. Vous illustrez l'art de la rime, l'artisanat de la rime. C'est-à-dire que vous vous regroupez et vous arrêtez pas d'écrire. Et vous êtes dans une effervescence de création de rimes.
C'est exactement ça. À l'époque, pour te dire, on avait même inventé entre nous ce qu'on appelle le comité. C'est-à-dire que puisqu'on voulait tous rapper, on voulait tous parler sur le rythme, eh bien évidemment, il n'y avait pas assez de place sur tout le monde, sur les morceaux. On avait donc inventé ce que j'ai appelé le comité, qui était de dire « Allez-y, chacun votre tour, posez votre texte et puis on va prendre les meilleurs. » Et donc, il y avait une sorte d'émulation avec ça. Et à l'époque, en effet, on était fascinés par ce qu'on pouvait tirer de chaque mot. Tu parlais tout à l'heure de paronomase, il y a aussi les allitérations, les assonances, tout ce qui permet de dire qu'à partir d'un mot, d'un terme, eh bien, on en a tiré vraiment tout ce que l'on pouvait, on a épuisé le mot. Et ce qui, je crois, hein, permet pour celui qui vous entend de dire, là, derrière, il y a quelqu'un qui travaille. Avec notamment la paronomase, c'est qu'on a parfois l'impression d'entendre à chaque fois le même mot. Mais c'est pas le même mot. Ouais. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on est obligé d'analyser en même temps qu'on entend. Et donc, là encore, c'est une manière de prendre la main. Tout ça, c'est en fait des exercices et des effets rhétoriques pour forcer l'écoute. Et c'est le but, finalement, lorsqu'on en fait de la musique.
Du travail. Et c'est vrai que si, par exemple, on prend la variété française et le rap français, en particulier le rap de cette époque dont le rap actuel procède, c'est du travail. C'est du travail sur le matériau linguistique. On prend la langue, les sonorités, on les retourne. C'est comme des cailloux. Il y a une chanson de Arsenic qui s'appelle « Boxe avec les mots ».
Je boxe avec les mots, je boxe avec les mots.
Et il y a une question pugilistique de combat aussi, comme l'illustrent certains de vos clips, où on se retrouve sur un terrain soit de boxe, ou je voulais évoquer aussi le playground où ça a commencé à Vitry-sur-Seine. Peut-être tu peux nous dire cette époque-là.
Oui, c'était, je crois bien, tu as dit tout à l'heure l'âge d'or du rap. Il y a toujours une idée de c'était mieux avant, mais objectivement, c'était mieux avant. Et avant, on était vraiment très attachés aux mots, parce qu'en réalité, on vient tous de ces milieux, je ne vais pas dire pauvres, mais populaires, où on n'a pas grand-chose, mais il existe un instrument qui est à la portée de tous, gratuit, et on peut, de manière équitable, l'utiliser et voir qui est le meilleur. C'est la parole. Et je crois que la parole, c'est le premier instrument pour entrer en contact avec l'autre. Et nous, à cette époque, on était dans cette dimension de dire « on va utiliser le mot mieux que toi et on va te le démontrer par nos textes ». Et donc, effectivement, ça passait par la rime, parce que la rime, je me répète, mais pour moi, c'est véritablement l'essentiel, c'est la meilleure manière de démontrer qu'on est dans la musicalité et qu'on est dans l'expression orale poussée à son paroxysme. Nous, on était dans ce qu'on appelait les rimes 100%. L'Amazone, la forêt, c'est l'Amazone, tu vois.
C'est la rime équivoquée des grands rhétoriqueurs.
Toi, tu appelles ça équivoqué. Nous, on disait 100%. On était là et on cherchait le pourcentage le plus fort pour démontrer qu'on avait travaillé plus que l'autre. Si toi, tu fais ta rime avec la dernière syllabe, non, moi, je vais prendre les deux dernières. Et puis l'autre, le troisième. Et donc, c'était génial. Et on écoutait les textes des autres. T'as cité Arsenic, t'as cité Hostile, toutes les claques, Time Bomb. Ouais. On se prenait des claques. Ouais. Quand on entendait les Booba, quand on entendait Oxmo Puccino, les types Lino. Qui faisaient des rimes extraordinaires. Lino, évidemment, qui faisaient des rimes extraordinaires. On dit souvent que les rappeurs font des punchlines. Et donc, la terminologie, la signification, c'est de dire qu'à partir de la ligne, on a mis un punch. Eh bien, la rime, c'est un peu ça. Quand tu entends ma rime, tu prends un coup de poing tellement tu n'avais pas imaginé l'intensité du truc. Toi, tu t'attendais à entendre ça, et ben moi, j'ai autre chose derrière. Et les rimes sont plus fortes lorsqu'elles tombent. Tu te dis, bah oui, évidemment. Évidemment que c'est ce qu'il allait dire. Et j'ai fait des ateliers, moi, d'écriture de rap. On en parlera sans doute.
Tu as été professeur de rap.
Absolument.
Quand même, ça existe. Professeur de rap, ça consiste en quoi?
Alors, c'était justement de faire... trouver un moyen pour que les jeunes utilisent leur cerveau pour jouer avec les mots. Et donc, moi, j'ai appelé ça des cours de rap. Parce que c'était des cours, véritablement, je leur donnais des leçons et les outils pour utiliser le mot.
Conseil pour les jeunes, là, maintenant, qui veulent se lancer dans le rap, par Serge Monet.
Moi, mon conseil, ce serait effectivement de triturer, contorsionner et utiliser un mot à 100%. Parce que c'est en faisant cette gymnastique-là qu'on va prendre des automatismes qui feront qu'on aura une vraie familiarité avec le mot. Et finalement, par le mot, on va arriver à des phrases, et par des phrases, à des images, et par des images, à des textes magnifiques. Voilà, on fait en sorte de, à partir du mot, démontrer qu'on est allé au plus profond. Et on l'a totalement épuisé. Ensuite, parce que ça ne fait pas un texte, mais à force d'avoir pris l'habitude et la technique de décortication du mot, eh bien, on a la matière pour ensuite laisser jaillir l'imaginaire. Et grâce à l'imaginaire qui va commencer à se mettre en branle, on va en arriver à des thématiques qui vont pouvoir utiliser finalement ces outils-là, cette matière-là, pour faire de bons textes.
Séquence 2. Les techniques de l'invité. Mon invité vous fait partager ses trucs, ses habitudes, ses techniques, en dévoilant son rapport à l'éloquence, bref, les clés de sa prise de parole.
On va passer à une seconde partie où on cherche à savoir, toi, dans ta vie, qu'est-ce qui t'a conduit au mot ? Et peut-être qu'on va commencer par Perry Mason qui a marqué ta jeunesse.
Vous avez tué Lynch avec le revolver de Catherine et vous vous êtes servi d'elle comme alibi pour justifier de votre mercredi après-midi. D'autre part, ce meurtre devenait la solution à tous vos problèmes. Vous auriez eu le fric, la fille et personne n'en aurait jamais rien su. N'est-ce pas vrai, monsieur Braddock ?
Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est le retour de Perry Mason, c'est la reprise d'une série des années 60 sous forme de téléfilm dans les années 80. Et ça, ça t'a marqué.
Mmh. Et c'est incroyable parce que c'est la première fois, en fait, que j'entends Perry Mason sans l'image.
Alors, c'est qui ?
Eh bien, c'est un avocat et dont la caractéristique dans cette série était que le téléspectateur savait au début que celui qui serait le sujet de l'épisode est innocent. Parce qu'on voit déjà celui qui aurait commis ce crime. Mais tout est contre ce type. Et donc, on passe la série à être saisi de l'injustice qui frappe ce pauvre homme. Et un type qui arrive, et juste avec ses mots, avec son éloquence, avec sa puissance de conviction, eh bien, il démontre que le type est innocent. Et donc, on arrive à la fin de l'épisode en disant « Putain, mais c'est génial !»
Et il trouve le coupable en plus.
Bien sûr. Non content de démontrer l'innocence du type, il trouve le coupable. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de débat. Le gars est génial. Et juste avec les mots. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de bagarre, il n'y a rien. Le type est trop fort. Avec les mots.
Et donc, quand tu étais à l'école, au collège...
Je disais, voilà. On me disait, qu'est-ce que tu veux faire demain ? Je disais, avocat. puisque Perry Mason, c'était un avocat. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte que c'était quelque chose qui était réservé à une certaine caste de la population.
Ce dont tu vas pouvoir te rendre compte par la suite.
Et donc, quand je disais ça, c'était un peu genre, oui, vas-y, parle beaucoup, petit gars, là, de ta banlieue, fils d'ouvrier, là, le petit Renoir, là. Vas-y, raconte ta vie. Et au fur et à mesure que je disais ça, en sixième, en cinquième, en quatrième, c'était devenu comme un défi que je me suis approprié et je savais que ça allait arriver un jour. Et finalement, me voilà.
Ça indique aussi quelque chose qu'on voit parfois dans le rap, qui illustre une sorte d'auto-conviction, de démonstration, de méthode Koué. Je pense à la section d'assaut qui a été beaucoup décriée, mais qui illustre un rap ultra technique. Ils n'arrêtaient pas de répéter comme ça, un million d'albums, on est les meilleurs. Il y a ce truc-là dans le rap Ego Trip qui fonctionne.
Oui, l'ego trip, c'est aussi une manière de se rassurer soi-même. Dans mon cas, c'était véritablement vu comme un défi que je lançais au monde. Tu crois pas que je vais y arriver? Bouge pas. Ça va venir. Fais-moi confiance. Et donc, oui, c'était une manière pour moi de m'auto-motiver. Et ça fonctionne. Ça a fonctionné avec moi. Ça fonctionne avec beaucoup d'autres gens parce que souvent, le défi, c'est aussi un défi avec soi-même. Et c'est ça qui permet de faire ressortir des individualités, des caractères. Et dans le rap, par l'écriture, par la thématique qu'on choisit, eh bien les individualités et ce que vous êtes dans le fond qui ressort. Le rap était tout trouvé pour moi, comme être avocat en fait.
Donc l'école, je veux être avocat. Mm-hmm. Le playground où vous décidez que vous allez vous lancer.
C'est ça, on est un petit collectif, on est des potes en réalité. Et tu l'as dit, on est dans les années 90 et à l'époque, les collectifs, les compilations, ça marchait bien. Et donc Mafia Tressée, à l'époque, c'est le nom du collectif. Nous, quand on fait Mafia Tressée, c'est pas pour en faire un truc qui va durer des années et des années, c'était juste pour faire émerger les groupes en se disant que si le collectif eh bien, arrive à faire la différence, forcément, les groupes allaient en tirer profit. La bonne surprise ou pas, après, c'est l'avenir qui tranche, eh bien, c'est que le collectif a vraiment fonctionné et les gens voulaient Mafia Tressée.
Ensuite, t'as 30 ans et tu reprends tes études de droit interrompu.
C'est ça.
À la fac Saint-Hippolyte, dans le 13e, pas très loin, tu traverses le périph' de Vitry-sur-Seine.
Le 13, Mafia Tressée pour le 13 et le 13e pour Saint-Hippolyte, on y est, on bouge pas.
Tu réussis à devenir avocat en passant le concours du barreau et non content d'être avocat, tu veux en plus être secrétaire de la conférence. Alors là, on va expliquer parce que aujourd'hui, dans le retour de l'art oratoire qu'on vit, j'allais à l'époque à la conférence du stage, donc un concours, peut-être tu vas nous expliquer, qui est devenu le modèle qu'on exporte partout maintenant.
La conférence du stage, c'est un concours d'éloquence ouvert aux avocats et qui permet à terme d'élire les 12 secrétaires qui ont cette aura, cette réputation d'être les meilleurs avocats de l'année en fait. Car ce concours, il est basé sur des avocats qui répondent à des sujets un peu loufoques, mais qui sont prétextes à l'éloquence. Et donc chacun part sur la même ligne de départ qui est de dire « montre-nous ce que tu veux en matière d'éloquence » pour devenir finalement les stars du barreau. Mais de base, c'est un concours d'éloquence. Mmh. C'est pour les bons mots, c'est pour les punchlines, c'est pour les bonnes références, c'est pour la bonne tonalité, la bonne rythmique. C'est génial. Et moi, je suis à fond dedans, forcément. Quand j'apprends que la conférence, c'est pour ce type d'exercice, j'y vais. Et c'est là où j'apprends que c'est pas juste un concours, c'est aussi une élection. Ça veut dire qu'on bascule d'un truc ouvert à tout le monde à très vite un truc un peu fermé tout de même.
Et donc là, on va aborder l'aspect social, d'origine sociale. Donc, tu es le premier noir à devenir, à force de et de talent, à devenir
secrétaire de la conférence. Ouais.
Dans un milieu où on est plutôt dans l'entre-soi.
C'est ça. Et c'est un milieu pour te faire comprendre, un type comme moi, il dénote, je joue vraiment les guillemets. Ça existe pas. Il y a beaucoup d'avocats noirs. Mais sache que dans le microcosme des avocats parisiens, on m'appelle le black. Comme s'il n'y en avait qu'un, tu vois. Si un confrère, tu lui dis, mais tu connais Serge Monnet, le pénaliste, qui ça? Tu sais, le black. Ah, le black. Tu comprends? On en est à ça aujourd'hui. Alors, moi, j'ai plein de potes avocats, donc je vais pas jeter l'opprobre sur les confrères. Mais c'est vrai qu'en devenant avocat, en devenant secrétaire de la conférence, j'ai encore plus vécu cette espèce d'entre-soi, cette espèce de reproduction sociale dans lequel on te met vite à la marge.
Pour préciser sur la conférence du stage. Il y a aussi un équivalent qui s'appelle la conférence Berryer, qui, elle, est ouverte à des non-avocats. Si on considère l'éloquence antique telle qu'elle a été formalisée par Aristote à la suite des anciens, aujourd'hui, c'est une petite facette de l'éloquence, c'est un débat donc, qui oppose deux orateurs qui défendent des points de vue antagonistes sur une question, mais il y avait plein d'autres exercices dans l'Antiquité de la prise de parole, dont le rap pourrait être un avatar contemporain si on allait chercher les choses. Et l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure, c'est toi, en tant que secrétaire, tu fais des figures de rime, des assonances, des allitérations, ce qui n'est pas courant en fait. On est plus habitué dans l'éloquence de l'avocat à quelque chose de structuré, à des figures de construction comme l'anaphore, pas à ces rimes-là.
Oui, et en réalité, je suis le seul à le faire parce que je peux le faire, car je suis identifié comme un ancien rappeur. Donc du coup, quand un type comme moi vient faire un discours dans lequel je mets un passage, c'est pas du slam, mais bien du rap, hein, j'insiste. Là, on applaudit parce qu'on s'y attend. Mais je pense que quelqu'un d'autre qui le ferait, c'est rédhibitoire. Là, on est dans un exercice particulier. Je suis secrétaire de la conférence, j'ai le droit, puisque je l'ai eu. En tant que candidat, je l'aurais pas fait, par exemple. Mais il faut savoir que, parce que tu l'as signalé très justement, ce n'est pas ça qu'on attend d'un avocat. Et tu ne vas pas te permettre de le faire dans n'importe quelle situation.
Aujourd'hui, toi, Serge Monet, tu t'animes des ateliers. Mais toi, tu leur dis quoi aux jeunes avocats?
Il faut faire très attention. Moi, je n'ai pas participé à des ateliers d'éloquence. Lorsque j'ai participé à l'UFB, j'ai donné des cours, c'était sur la procédure pénale. Et donc, dans le cadre de la procédure pénale, il y avait la pratique du procès pénal. Et donc, dans la pratique, il y a finalement la plaidoirie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je leur donnerai quelques conseils sur la plaidoirie. Régulièrement, dans les salles d'audience, il y a des étudiants en droit, des avocats qui sont là pour écouter. Et moi, je l'ai fait. Tu vois, très clairement, je me suis déjà vu aller spécifiquement dans les salles d'audience pour entendre des avocats et en prendre de la graine. Et d'ailleurs, le conseil que je donne, le premier, c'est n'hésitez pas à écouter les autres. Ensuite, lorsqu'on est seul avec soi-même, oui, il y a des méthodes. Il y a évidemment tout ce qui concerne l'élocution, car c'est très important de savoir prononcer les mots.
Réponse. Je parle langage soutenu, travaille l'élocution. Je rappe langage soutenu, travaille révolution.
Il y a le travail sur les temps, la respiration, parce qu'il faut aussi que ce soit agréable. Et je l'ai dit tout à l'heure, ça devient agréable lorsqu'on met des rimes, qu'on ne peut pas mettre des rimes. Il faut savoir mettre des temps. Il faut savoir aussi jouer sur les sonorités, mais avec la tonalité. C'est si je suis énervé, et donc je te le dis que je suis énervé. Ou si c'est plus doux, parce que forcément, ce que je dis là, c'est beaucoup plus doux. Et donc, être capable, dans son propos, eh bien, de jouer avec les tonalités pour qu'elles soient cohérentes avec ce qu'on dit. Et ça, on sait le faire lorsqu'on a du recul sur son élocution.
Et tu as des images aussi. Tu peux avoir des procédés narratifs, des sortes de fables, des paraboles pour raconter,
mais
pour décrire un cas.
C'est génial. La puissance pour moi de l'orateur, c'est celui qui arrive à faire naître dans la tête de celui qui l'entend, qui l'écoute, des images. Pour moi, ce n'est pas pareil de dire « il fait beau » et de dire « le ciel est bleu ». Tu vois que dans le même temps, on dit la même chose, mais il y a un moment donné, on voit ce dont tu parles. Et si tu arrives à faire voir à l'autre ce que tu dis, c'est exceptionnel. Parce que tu le fais voyager avec toi, tu l'accompagnes, il reste avec toi. Tu lui donnes des images. Et donc les images, les métaphores, les paraboles, tous ces éléments de langage sont des éléments qui, à mon sens, permettent d'accrocher l'auditeur. Moi, je fais pas de rime. Mais j'en fais quand je plaide. Si tu me vois plaider, tu vas dire c'est pas possible, c'est sûr qu'il a rappé. Parce que je peux pas plaider comme si j'avais pas rappé, c'est pas possible. Lorsque tu as été sur scène, lorsque tu as pu voir qu'en mettant de la mélodie, de la musicalité, de l'intensité, tu peux faire bouger une salle, et lorsque tu plaides un acquittement, lorsque tu viens plaider une relaxe pour un type qui est innocent, là t'y vas, là tu les amènes avec toi, là tu fais les images, là tu leur dis venez, vous y étiez pas.
Donc donne-nous un exemple de parabole ou d'image pour accrocher.
Je me souviens d'un dossier emblématique pour moi qui était un jeune homme qui vivait dans une banlieue, choisit le roi, on va le dire, et puis c'était un peu le souffre-douleur du quartier. Et donc, il faut savoir que quelques mois avant les faits, on lui avait fait ce qu'on appelle le sourire éternel. Un type lui avait donné un coup de couteau qui part de la pointe de la bouche, qui remontait jusqu'à le bas de l'oreille en passant par la joue. Donc, tu vois, le sourire, il continue comme ça. Il avait creusé avec un couteau. Donc, ce jeune homme est complètement défiguré. Et quelques mois plus tard, il va recroiser ses bourreaux. Et alors qu'on lui met un coup de poing, il va ressortir ce soir-là. Et tuer l'un de ceux qui avaient pu être ses bourreaux. La question était de savoir si c'était un assassinat, voire un meurtre. C'est-à-dire, je te tue, soit avec préméditation, ou soit parce que je veux que tu meurs. Et moi, j'étais convaincu qu'il ne voulait pas le tuer. La clé de ce dossier, c'était de dire, qu'est-ce qui se passe entre le moment où je te rencontre, tu me donnes un coup de poing là où j'avais ma balafre, je rentre chez moi et je ressors avec une arme. Pourquoi je fais ça? Et donc, j'ai pu expliquer à la cour, deux fois, parce que le parquet a fait appel, eh bien que lorsqu'il rentre chez lui et qu'il passe devant le miroir et qu'il voit sa tronche et qu'il se dit plus jamais ça, il ressort avec une arme. Mais pas pour tuer, pas pour assassiner, mais pour lui, juste parce qu'il est dans plus jamais ça. Et que si on n'est pas repassé devant le miroir en voyant cette gueule, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans sa tête. Et je l'ai dit la première fois, j'ai eu mon double acquittement. Pas d'assassinat, pas de meurtre. Appel, pas d'assassinat, pas de meurtre. Parce qu'on a pu, j'ai pu plaider autour de l'image du miroir et de ce que renvoie le miroir. Et à l'époque, quand je faisais du rap, j'avais écrit un texte qui commençait par « Je veux toujours pas être prince ni roi, tandis que tu rêves trop, moi, je crains plus le miroir que le rétro. » Et donc, l'idée, c'était de dire que ce qui fait peur, c'est ce qu'on voit dans le miroir, c'est-à-dire nous-mêmes, le reflet que nous renvoie notre image, et non pas ce qu'on a vécu hier, donc le rétroviseur. Et c'était ça pour ces jeunes. Là, on peut faire une image, on peut faire une parabole, là, on peut faire passer une conviction, et j'ai tiré ça d'un de mes textes, tant mieux. Mais l'idée principale était de dire, le miroir, c'est là où tout se joue. Voilà, c'est un dossier qui était pour moi important, car il risquait perpète. Avec un assassinat, et on est passé à des coups mortels, et donc il risquait 15 ans. Il en a pris 7.
Toi, tu disais « Je plaide pour la rue », c'est un des morceaux du premier album. « Je plaide pour la rue » et « Je rappe tous les jours ». En fait, c'est la même pratique dans des contextes différents.
Absolument. Et d'ailleurs, lorsque je m'étais permis de dire « Je rappe tous les jours », tu l'as compris, c'était pas pour dire que je suis en train de sortir la platine et mon instrumental dans les salles d'audience. Mais c'est vrai que la manière de manier les mots pour faire passer mon message en l'espèce une plaidoirie, oui, c'est équivalent à du rap. Parce qu'on est dans la musicalité, on est dans l'intensité, on est dans la punchline.
Dans un cas, évidemment, il s'agit de convaincre un public, de séduire un public. Dans un autre cas, il s'agit quand même de convaincre un juge. L'enjeu, évidemment, est différent s'il s'agit de sauver la vie d'un homme. Mais il peut y avoir des combats aussi dans le rap.
Moi, je pense qu'au départ, on a à peu près tous le même objectif, c'est d'être aimé. Et quand tu fais du rap, t'espères qu'on va t'aimer pour qu'on entende ton message, voire acheter ton disque. Et quand t'es avocat et que tu plais, t'espères que les juges vont t'aimer quelque part pour entendre ton message et peut-être te donner le résultat que tu espères. Donc, on est toujours au départ dans cette volonté de dire « Regarde, ce que je dis, c'est pas de la merde, en fait. » Et d'ailleurs, ça vaut peut-être le coup que tu l'entendes. Parce que après que tu l'as entendu, tu vas peut-être en tirer quelque chose qui va te plaire.
Séquence 3. L'atelier oratoire. Et maintenant, on entre à proprement parler dans l'atelier oratoire. Je soumets mon invité à des exercices qui révèlent ce potentiel rhétorique qu'on porte tous en nous.
Et on passe à la troisième séquence sur des astuces. En fait, tu pioches, y a certaines choses que j'ai choisies, d'autres que tu choisis. Mais d'abord, le nom. Le nom, c'est Serge Monet. C'est un blaze. Je veux dire, c'est presque un blaze de rappeur. Monet, ça vient d'où ce nom?
Alors Monet, moi je suis né en Côte d'Ivoire.
M-O-N-E-Y.
Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, Monet, c'est plus souvent un prénom. Et on peut, nous, au pays, dans nos traditions, à un moment donné, transformer un prénom en nom pour rendre hommage à un aïeul. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain comme ça, mais c'est possible. Un de mes grands-pères a choisi de rendre hommage en mettant Monet comme nom de famille. Ça, c'est possible au pays. Et voilà comment je deviens un Monet.
Au début, c'est Serge M. Et ensuite, c'est Cochise. Cochise, chef indien des Chiricahua, chef Apache d'Arizona. Explique-nous ces noms.
Et moi, j'aime bien cette idée, eh bien, que lorsque les gens prononçaient mon blaze, mon pseudo, je sache ce qu'ils pensent de moi. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait ce jeu de mots. Serge, apostrophe M, si tu le prononces, tout accroché, ça donne Serge J'aime.
Ça veut dire j'aime Serge.
Exactement. Et moi, j'adorais cette petite idée de dire « Ah, en fait, tu me kiffes ». Donc, c'était ça. Donc, je n'ai pas du tout considéré le terme « monnaie » qui veut dire « argent », parce que ce n'était pas ma priorité. C'était plus les jeux de mots. J'étais très jeu de mots. Et le jeu de mots Serge J'aime, j'ai trouvé ça génial. Sauf que quand Mafia 13 a commencé à marcher, tous mes potes, tous les gens qui me connaissaient par ailleurs, je pense par facilité, par raccourci, ils m'appelaient plus Serge, mais Serge M. Et ça m'a saoulé un peu. Et donc, pour le deuxième album, j'ai voulu trancher en prenant un nom qui ne ressemble plus du tout à mon prénom. J'ai vu, là encore, à la télé, en zappant, un film où il y avait un Koshiz, des Shirikawa. J'ai adoré le terme, j'ai adoré le personnage. Chef de la tribu Apache, il a quand même mené les Indiens vers l'autonomie et l'indépendance. J'ai adoré le personnage, je me suis dit, lui, c'est moi. Et en plus, comme tout le monde m'appelait Coach. Donc Coach, Koshiz, j'ai dit, allez, on fonce.
La bombe, aïe. L'ox ou Bob sur la tête, blafond qui sert, j'aime. Pour qui les gosses disent quand ils me servent, j'aime Koshiz.
J'ai inventé un petit exercice qui s'appelle le haïku blason, un genre poétique, une forme poétique courte en 5 syllabes, 7 et 5, qui est une forme poétique japonaise. Et le blason, c'est un alias. Et tu as été suffisamment réactif pour pondre ton haïku blason.
Donc en 5, 7, 5, ça donne toujours un bon mot. Koshiz, maître Serge Monet, la rime a un nom.
La rime a un nom. Et c'est Serge Monet qui est là toujours. Maintenant, je voudrais savoir, c'est quoi ton, si tu as un dicton préféré?
J'en ai pas, parce qu'au pays, on est plus dans les termes un peu comme ça. Moi, je dis souvent, ça va aller. Voilà, c'est une manière de dire, il faut pas baisser les bras, ça va aller, ça va aller. Donc, c'est un truc que je dis régulièrement. Donc, tu vois, ça permet de ménager la chèvre de chou tout en restant dans une espérance. Mais bon, c'est plus un mot.
Une interjection.
Ça, voilà.
Ça
va aller.
Presque un réflexe, un adverbe.
Ça va aller.
On pourrait trouver quelque chose dans une intervention. C'était, j'ai entendu dire le jeu sur les mots.
Oui.
Et les mots. Un jeu de mots basique, essentiel.
M-A-U-X, ouais.
Il y a quelque chose là.
Oui, parce que c'est par les mots M-A-U-X que j'en suis arrivé aux mots. L'injustice, le racisme ordinaire, la stigmatisation, ce sont toutes ces impressions, ces sentiments qui m'ont amené à me poser des questions et me dire comment j'en sors et comprendre que c'est par les mots.
Exactement, belle démonstration. Il y a une rubrique qui s'appelle « Classique et moderne ». Je te place un morceau de rap et puis on voit quel écho ça donne. Bobby Lapointe et Mafia Tressée.
Tapa 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 touri, tapa touri à ta doudou, ta dédou, t'étis dit pas tout, et c'est toi qui l'as dans le dos.
Il faut que je tabasse, hein, je fais mes vocalises, le son fracasse, la basse focalise, ton esprit ça te tracasse. Ma mafia a 10, dès qu'on voit 10 en face, tous les plus jeunes qu'on voit 10, la 8-6. Comme Biggie dit, tu peux râler nos dates, nos Biggie dit, je fais des dégâts, la bague au doigt, je suis un gars dégourdi, dis donc, tu sais déjà, je suis gaga devant des bigoudis, ab de redondant, pas de baggy jean, on biga au bougon, j'ai le béguin pour de rentre dedans.
Ton collègue Awax qui fait du Bobby Lapointe, là on a un procédé, c'est même plus de l'assonance et de l'allitération en stylistique, on appelle ça la musication. Il y a tellement d'effets sonores et phonétiques que ça sature la phrase, ça éclipse le sens, on ne comprend plus.
Quand je veux rejoindre à l'époque le projet Mafia Tressée, c'est parce que je suis sur le playground en train de jouer et puis mes potes, donc Awax, G-Wild, les gars de Mouvance, qui font partie de mon groupe originel, me font leur texte. Et je prends ma gifle. Et je me dis, je veux rapper avec ces mecs-là, c'est pas possible. Alors que de base, c'est des amis du lycée, on est devenus des collègues de travail parce que je les ai trouvés trop forts. Et Awax, à l'époque, était déjà en avance. Aujourd'hui, beaucoup de gens le font, tu le vulgarises, mais il n'y avait que lui qui écrivait véritablement à ce point dans les allitérations et les assonances. Il n'y avait que lui.
On est dans l'illustration d'une des rubriques de cette partie de l'émission, détournement d'expression. Comment on fait? On prend des expressions. Je t'ai parlé d'aphorisme, mais en fait, ça, c'est ton propre dicton.
Moi, j'adore jouer avec les mots, trouver. Dans le premier album, j'ai proposé Détour vers le futur parce que je trouvais que c'était génial de dire.
Ça veut dire quoi?
En fait.
Déjà, il faut se remémorer Retour vers le futur.
C'est ça. À l'époque, il y avait un film qui s'appelait Retour vers le futur. Et donc, moi, j'avais trouvé que ce film qui était connu de tous, pouvoir le détourner, justement, dans un de nos titres, en disant là, on fait un petit détour vers le futur parce qu'on est en avance sur le son et sur la manière de rapper, c'est bien. Dès le départ, on a voulu marquer le terrain du jeu de mots, marquer le terrain de la rime, marquer le terrain des métaphores, marquer le terrain des mecs. Et rien n'est dit au hasard. Tout est écrit à la pointe de la sophistication stylistique.
Et qu'est-ce qui distingue la rhétorique rap de la plaidoirie?
Je pense que dans la rhétorique rap, on peut se permettre de véritablement être dans la musicalité par la rime. Et donc de faire des assonances, beaucoup d'assonances pour dire « t'as peut-être pas compris maintenant ? Réécoute, tu vas voir. Alors que dans la rhétorique des avocats, dans la plaidoirie, il faut qu'on te comprenne tout de suite. Donc voilà, on peut pas se permettre de faire trop d'assonance ou d'allitération, car il faut surtout pas perdre l'oreille. Ouais. Là, on a besoin que tu restes attentif maintenant. Et donc, c'est un petit peu ça la différence.
Que tu sois sur scène pendant un concert de rap ou à la cour en train de plaider, il peut arriver que tu aies un trou de mémoire. Comment est-ce que tu fais dans ce cas-là?
Quand on a un trou de mémoire, il faut improviser. Et je dis que la meilleure impro, c'est celle qui est préparée. Et donc, il faut constamment avoir dans la tête des tiroirs où on peut aller pêcher quelque chose qu'on peut sortir à tout moment. Des formules toutes faites. J'écoutais l'autre jour un mec qui disait toujours « Est-ce que tu comprends? Tu vois ce que je veux dire ?» Et donc, juste en disant « Tu vois ce que je veux dire ?» Eh ben, le temps de dire « Tu vois ce que je veux dire ?» dans ta tête, t'es déjà en train de penser à ta rime qui va tomber là-bas, tu vois. Et c'est un peu comme ça quand on doit faire une impro. On a un truc qu'on peut pêcher, ça nous permet de vite se remobiliser et on retombe sur nos pieds. Voilà, il en faut une petite dizaine qu'on remet régulièrement comme ça dans des plaidoiries. Mais après, il faut être en situation parce que faut que le tiroir tombe aussi avec, je sais pas, je suis dans un trafic de stup. Il faut que juste vous savez pertinemment comment ça se passe dans ce type de dossier. Donc si j'ai un peu oublié mon dossier, je vais le dire. Vous savez très bien, monsieur le Président, comment ça se passe dans ce type de dossier. On connaît tous ce type de dossier. Vous le savez aussi bien que moi.
Et tu l'inclus.
Oui,
le président, tu le flattes.
Voilà, et tu
le sais, quoi.
Donc le mec, il attend comme toi ce que tu veux dire derrière, en fait. Il vient de dire ça, mais on sait, monsieur le Président, vous savez tous comment ça se passe. Dans ce type de situation. Et là, après, tu vois. Voilà. Il faut, en tout cas, ne pas montrer que t'es déconcerté. Ou alors, dis-le. Bah, vous savez quoi, ça me laisse sans voix. Et au moment où je vous parle, moi, je suis en train de chercher. Vous, je sais pas, mais moi, je m'y attendais pas. Mais c'est très bien. Plutôt que de vouloir faire le fort, utilise le blanc, utilise ce truc qui tombe de nulle part. Dis-le. On est d'accord, ça tombe de nulle part, ce qui vient de se passer. Et là, après, t'enchaînes.
Faut accepter cet instant et rebondir dessus sans vouloir l'esquiver.
Moi, je dis à mes clients, quand vous êtes dans le boss, quand vous êtes jugé, vous devez faire l'éponge. Parce que quand on vous reproche, c'est pas pour rien. Alors, faites pas le type qui est là. Non. T'acceptes. Et c'est parce que tu acceptes qu'on te juge que tu trouveras la meilleure manière d'être jugé. Voilà. Si t'es dans le déni, t'es en bloc comme ça, c'est pas gagné. Alors que si tu dis oui, je te comprends. T'as tort, hein? Mais je te comprends. Je vais te montrer pourquoi t'as tort, mais je te comprends. On va dans ton sens. Mmh. Eh bien, c'est un peu pareil. T'as un trou de mémoire, tu bugs, dis-le. Ben moi, je bug. Il m'est arrivé combien de fois de parler, et puis finalement, j'ai la langue qui fourche ou quoi. Ben, je lui dis. Je dis, là, je viens de fourcher, c'est à peu près n'importe quoi. Laissez-moi reprendre depuis le début, vous allez tout comprendre. Et là, on y retourne. Tu vois, c'est plus simple.
Ouais. Bon conseil. Et l'élocution, t'en as parlé beaucoup. Est-ce que tu faisais des exercices comme font, je sais pas moi, les gens qui font le cours Florent, mettent un stylo dans la bouche, ils commencent à articuler?
Je l'ai jamais fait parce que j'ai pas eu l'impression que j'avais ce type de problème, mais je l'aurais fait. J'ai entendu chez certains des problèmes d'élocution et je trouve ça rédhibitoire.
Ouais.
Donc la moindre des choses, effectivement, c'est de travailler dessus. Donc oui, il y a le stylo, il y a les virelangues, il y a des exercices de style qui permettent de faire travailler.
Donc les virelangues sont les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches,
des exercices phonétiques.
On insiste beaucoup en France, je trouve, sur l'orthographe, mais en fait, là, on ne fait que parler de la clarté de l'expression. C'est ça le vrai discriminant social.
Bah, l'orthographe, évidemment pour l'écrit, mais dans la parole.
C'est premier.
C'est le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est une plaie. Parce que par le vocabulaire, tu es trahi. Et donc, le premier conseil aux gens qui veulent parler, lisez le dictionnaire. Hein. Moi, je dis, le plus important dans la parole, c'est les mots. Et donc, si c'est les mots, va en chercher. Va chercher des mots, va dans le dictionnaire, vas-y. Et en plus, en lisant le dictionnaire, tu vas trouver de la signification. Moi, je dis ça à mes jeunes. Hein. Je leur disais, on écrit avec un dictionnaire. T'as les allitérations, t'as les significations, t'as le vocabulaire. Génial. Dictionnaire, c'est le meilleur ami.
Capter l'attention de son auditoire, je pense que tu nous as dit comment il fallait le faire.
Capter l'attention de l'auditoire, c'est le travail le plus compliqué, mais le plus simple. Parce que tu ne capteras l'attention que si toi-même t'es capté. Donc, avant toute chose, est-ce que t'es sûr de ton texte? Si t'es sûr de ton texte, comme tu es sûr de ta position lorsque tu plaides, déjà, t'as fait le premier travail. Sois d'abord sûr. Demande-toi si t'y crois. Est-ce que tu te croirais? Demande-toi si tu te convaincrais. Demande-toi si tu te plairais. Quand t'as répondu oui, maintenant on avance. Pour convaincre l'autre, soyons d'abord nous-mêmes convaincus.
Il y a des proverbes comme ça anciens qui opposent la rime et la raison. Ça n'a ni rime ni raison. Ça oppose le son
et le sens. Et il y a chez les rappeurs, dans le côté freestyle, parfois quelque chose qui est de l'ordre du coq à l'âne ou de l'écriture automatique, où c'est le son qui arrive et on fait des rimes, et puis ça produit un sens. Ça produit un sens dont on est surpris. Alors que dans la plaidoirie, c'est le sens qui doit être premier.
Bah, moi, je pense que ça devrait être pareil aussi dans le rap. Le sens devrait toujours être premier. Sauf si on se contente de faire de l'ego trip ou du freestyle. Mais à un moment donné, si on veut passer un message, il faut d'abord se poser la question du sens. Et le travail de l'auteur, de l'orateur, du rappeur, eh bien, c'est de donner une histoire à son sens. C'est là où on tombe dans le style. Trouve le sens, fais une histoire à partir de là. C'est pour ça que je disais dans mes cours de rap, j'apprenais au Moum à utiliser le mot, à donc avoir le sens. Et ensuite, à partir du sens, créer le son.
Et d'ailleurs, je t'ai demandé un dernier exercice que tu as consenti à faire. Cet exercice inspiré d'un vers d'Éluard, « La terre est bleue comme une orange », de définir la terre par une image.
Et j'ai tout de suite pensé à « la terre est un terrain de fou ». Je ne dis pas la dernière syllabe parce que c'est un terrain et les gens qui le peuplent vont donner un sens. Mais ça reste un terrain pour nous.
Là, c'est bien. On analyse en direct. Terrain de fou, il y a l'idée de terrain de foot. Il y a l'idée de maison de fou. Serge, tu nous as dit tellement de choses. Tu nous as donné tellement de conseils. Mais on va tenter de conclure ensemble. Une synthèse, une petite synthèse pour terminer et repartir avec quelque chose de cette émission. D'abord, est-ce que tu aurais un conseil pour les futurs rappeurs ?
Je leur dirais, allez ouvrir les dictionnaires.
Je veux pas que mon fils devienne mercenaire, je veux qu'il aime sa mère et son dictionnaire.
Ouvrez le dictionnaire, regardez le sens des mots, allez voir d'un mot renvoie vers un autre mot, etc. Un conseil pour les futurs avocats ?
D'être convaincu par ce qu'ils vont dire. Avant d'essayer de convaincre les autres.
Et enfin, un conseil pour chaque personne qui veut parler.
De maîtriser son oral et donc de faire attention à la prononciation, faire attention au temps et au ton.
Génial. Merci beaucoup, Serge.
Merci pour l'invitation. Merci beaucoup.
Serge Monet est venu dans Flow. On a parlé rime et raison, on a décortiqué les mots. Maintenant, on sait que la rime a un nom.